Chères auditrices et auditeurs d'OxyWeb, êtes-vous prêts à me rejoindre pour découvrir ensemble la belle aventure que fut la construction du canal du Midi? Au cours de la dernière émission, nous avons pu voir que de nombreux projets de création d'une voie d'eau permettant de joindre la mer Méditerranée à l'océan Atlantique avaient échoué, jusqu'au jour où, en 1662, un percepteur de la Gabelle, nommé Pierre-Paul Riquet, présente au roi Louis XIV un nouveau projet. Et ce projet est immédiatement accepté par le roi. Alors, le décor est maintenant posé, reste la plus difficile des choses, le mettre en application. Le projet est accepté. Et les études qui sont réalisées montrent qu'il est fiable et réalisable. On peut donc passer à la deuxième phase, c'est-à-dire à sa réalisation. Un plan prévisionnel des travaux a été établi et ainsi il a été prévu que les travaux seraient lancés en trois phases, chaque phase étant appelée entreprise. Première entreprise. Eh bien, la première entreprise consistera à relier Toulouse jusqu'à Trèbes dans l'Aude. Cette entreprise, cette première étape des travaux, débute le 1er janvier 1667. En premier, on va s'occuper de l'approvisionnement en eau du canal. On commence par la construction de la rigole de la plaine, qui aura pour fonction de capter une partie des eaux d'une rivière appelée Sor, rivière située sur la commune de Sorez, exactement au pont Crouzet. La rigole de la plaine débouchera au seuil de Nerouze et viendra, à ce moment-là, fournir l'eau au canal. La rigole de la plaine est longue de 38 km. Les travaux sont ensuite suivis à partir du 15 avril 1667 de la même année donc par la pose de la première pierre du lac de Saint-Féréol, du futur bassin de Saint-Féréol. Il faut bien préciser qu'à l'époque, aucun lac réservoir de cette ampleur n'avait jamais été réalisé. En novembre, toujours de la même année, donc en 1667, à Toulouse, devant toutes les personnalités de la province, on pose symboliquement et avec solennité la première pierre de l'écluse de la Garonne. Les travaux continuent et la première mise en eau entre le seuil de Nerouze et Toulouse est réalisée durant l'hiver 1671-1672. À partir du début de l'année 1672, eh bien, la première circulation de bateaux peut débuter. Un an plus tard, en 1673, le tronçon Nerouze-Trèbes est terminé. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de la première entreprise prévue. Maintenant, il faut parler un peu du nerf de la guerre, le financement. Le coût des travaux est estimé à 3 600 000 livres. Premier problème, et là le ciel s'assombrit au-dessus du canal. Les finances de l'État sont au plus bas et les États du Languedoc ne sont pas prêts à financer la suite du projet. Les dépassements continuels du devis initial commencent à exaspérer Colbert, qui va même, j'insiste, jusqu'à soupçonner Riquet de détournement de fonds. Et dans un grand accès de fureur, Colbert se serait exclamé en parlant de Riquet « Sur la grandeur de son ouvrage, il a fondé la grandeur du service qu'il rendait à l'État et la grandeur de sa fortune. Il a donné à son esprit, touchant l'établissement de ses enfants, une vaste carrière. » Riquet propose alors de financer, sur ses propres fonds, une partie des travaux et demande cependant en échange le droit de propriété et d'exploitation du canal. Il s'est engagé donc à financer sur ses propres fonds, mais pour réaliser ce financement, il est obligé non seulement de mettre en vente la quasi-totalité de ses biens, mais encore d'emprunter des centaines de milliers de livres. Le reste du financement sera payé par l'État grâce aux bénéfices réalisés par Riquet avec la taxe sur la gabelle. Mais venons-en à la deuxième entreprise, à la deuxième phase. La deuxième entreprise sera financée par l'État et débute fin 1671. Elle doit à ce moment-là permettre de joindre Trèbes à l'étang de Thau, c'est-à-dire que l'on va arriver à la Méditerranée. Il y a un petit changement au niveau de l'état-major qui seconde Riquet. En 1677, à la mort du chevalier de Clerville qui avait été nommé par Colbert pour seconder Riquet, c'est l'ingénieur du roi, Ponce Alexis de la Feuille de Merville, qui va prendre le relais. Nous sommes donc à seconde entreprise et cette seconde partie du canal va poser différents problèmes entre Trèbes et l'étang de Thau. En particulier, le canal doit traverser le cours de deux rivières, Hérault et le Libron. Les difficultés seront résolues, en ce qui concerne le Libron, par un système de vannes et de caissons. Pour accéder à l'Hérault, on va construire l'écluse ronde d'Agde. Cette écluse met en relation Agde avec le canal du Midi et permet de passer un bief du canal du Midi et ainsi d'accéder à l'Hérault. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Un autre problème se présente au seuil d'Anseyrune. Le canal bute contre la colline d'Anseyrune. On ne peut pas la contourner. Colbert, alerté de la situation, fait interrompre les travaux. Le projet est donc menacé. En fait, Riquet est victime d'une cabale menée par des détracteurs. Va-t-il renoncer ? Non, Riquet va résoudre ses problèmes en désobéissant aux ordres royaux. Puisque on ne peut pas contourner la colline, eh bien, on va passer dessous. Il fait construire le tunnel de Malpas, construit de l'automne 1679 au printemps 1680. Ce tunnel de Malpas est long de 173 mètres, large de 6 mètres et d'une hauteur de 8,50 m. En plus, pour soutenir la voûte, on a mis 30 arches. Il y a un avantage parce que ce tunnel qui a permis d'éviter la construction d'une écluse supplémentaire. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est le premier tunnel-canal construit au monde. Ce sera, hélas, le dernier grand chantier de Riquet, car il meurt quelques mois plus tard. Par la suite, on construira près de Béziers, à Fonsoranes, le fameux escalier d'eau. C'est une enfilade de 8 bassins de forme ovoïde et de 9 portes qui permettent de franchir un dénivelé de 21 mètres sur une longueur de 321 mètres. Mais il nous faut de nouveau parler finances. La première entreprise, souvenez-vous, avait eu un coût estimé à 3 600 000 livres. La seconde entreprise coûtera encore plus cher, 5 832 000 livres. Ah, c'est un gros problème, ça. Mais enfin, on doit continuer et passons à la troisième entreprise. La troisième entreprise consistera en la construction du port de Sète. Sète, le nom de la ville de Sète à l'époque, s'écrivait C-E-T-E. Et cela jusqu'en 1927, où Sète prendra son nom actuel, S-E-T-E. Ce nom de Sète, C-E-T-E, a été donné à l'origine parce que la ville ressemble à une montagne en forme de baleine. Et la baleine se retrouve encore sur les armes de la ville. Mais revenons à notre canal. Les travaux de la construction du port de Sète vont coûter 1 million de livres supplémentaires. Le budget initial pour cette troisième et dernière entreprise avait été fixé aux alentours de 6 millions de livres. Mais à la sortie, la totalité des travaux auront coûté entre 17 et 18 millions de livres de l'époque, qui se décomposent ainsi: 40% payés par le roi, 40% payés par les États du Languedoc et 20% payés par Riquet lui-même, qui en deviendra, je vous le rappelle, propriétaire. Ses descendants vont devoir continuer à payer un crédit de 2 millions de livres pendant plus de 50 ans. En 1681, les travaux se terminent à Béziers. Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, n'aura pas vu les ultimes travaux. Il est mort le 1er octobre 1680. Il est mort à 4 misérables kilomètres et 6 mois de travaux près de la fin. Riquet ne verra donc pas l'achèvement de son œuvre. C'est Jean Mathias, son fils, qui achèvera l'ouvrage inauguré un an plus tard, en 1682. La propriété du canal revint aux deux fils de Riquet, Jean Mathias, baron de Bonrepos, et Pierre-Paul, comte de Caraman. Ils vont fort bien gérer les affaires. Dans un premier temps, ils vont vendre une partie des actifs de l'entreprise, ce qui leur permettra de rembourser petit à petit les dettes contractées par leur père. Mais quand même, cela leur prendra plus de 40 ans. Mais il ne faut pas trop les plaindre parce que jusqu'à la Révolution, ils vont toucher des revenus considérables. Jean Mathias, le fils aîné de Riquet, baron de Bonrepos, fait une fort belle carrière, d'abord conseiller au Parlement de Toulouse en 1664, puis maître des requêtes en 1676 et devint enfin président à Mortier en 1683. Il passait à l'époque pour l'homme le plus riche de Toulouse. Son fils, Jean Aimable, procureur général en 1750, participera à un procès très célèbre et c'est lui qui requérera contre Jean Calas. Pierre-Paul Riquet, le deuxième fils de Riquet, était comte de Caraman, pair de France, lieutenant général des armées du roi, grand croix de Saint-Louis, capitaine aux gardes françaises. Ce glorieux militaire mourut sans descendance après avoir légué tous ses biens et son titre à son neveu. Et c'est un fils de celui-ci, du neveu, Victor-Louis, marquis de Caraman, qui reçut par la suite le titre de duc héréditaire. Il fut également pair de France, ambassadeur à Vienne. Et c'est lui, avec ses deux frères, Maurice Gabriel, maréchal de camp, et François-Joseph, prince de Chimay, qui assista en 1825 à la cérémonie marquant l'érection de l'obélix de Naurouz. L'obélisque est élevé au point de partage des eaux et il est bâti sur les fameuses pierres dites de Nostradamus. Et selon Nostradamus, ces pierres, la réunion de ces pierres, devait annoncer la fin du monde. Ce n'est pas encore arrivé. Enfin, ces pierres, chantées par les troubadours, ont été la source de nombreuses légendes. Malheureusement, au XIXe siècle, les pierres de Naurouz ont vu la défaite du maréchal Soult face aux Anglais. En 1792, les Caramans, ayant émigré après la Révolution, la République leur avait confisqué le canal. Et les descendants de Riquet ne récupéreront une partie de leurs avoirs que sous la Restauration. Mais laissons les glorieux descendants de Riquet et revenons au canal qui vient juste d'être terminé. En 1681, sur ordre du roi, le canal est inspecté par Henri d'Aguesseau, intendant du Languedoc. Il était là pour vérifier les travaux et surtout sa bonne étanchéité. Le canal est ouvert officiellement à la navigation le 15 mai 1682. Lors de l'inauguration du canal à Toulouse, le 15 mai 1681, l'intendant du roi, Henri d'Aguesseau, et le président des États du Languedoc, le cardinal de Bonzy, archevêque de Narbonne, voyagèrent les premiers sur le canal, sur une barque amirale, suivie d'un cortège de barques transportant diverses denrées, dont symboliquement du blé. Le 24 mai 1681 à Béziers, la barque royale franchit une à une les 9 écluses de Fonsoranes, accompagnée d'un spectacle grandiose. Le lendemain, jour de Pentecôte, la barque traversa l'étang de Thau et vint s'amarrer dans le port de Sète, et nous pouvons dire que la boucle était enfin bouclée. En mars et avril 1683, une deuxième navigation officielle eut lieu, mais alors dans l'autre sens, de Sète à Toulouse. C'est cette même année, le 6 septembre 1683, que va mourir Jean-Baptiste Colbert, qui était âgé de 64 ans. Après l'inauguration de 1681, le canal a été remis à sec car les travaux ne sont pas tout à fait terminés. La véritable fin des travaux du canal aura lieu en décembre 1682 et le canal sera enfin ouvert au trafic en mai 1683, après la deuxième inauguration, cette Toulouse dont je viens de parler. L'arrêté de réception des travaux sera publié en mars 1685. Pour cette construction, Riquet s'est battu sur tous les fronts. Il a rêvé, il a imaginé, il a réalisé et en plus il s'est ruiné. Mais il a réussi un exploit dont le roi Louis XIV s'est enorgueilli et dont nous sommes encore aujourd'hui très fiers. Le roi a bien compris que la construction du canal du Midi resterait un des grands fleurons de son règne. Au maître d'œuvre de génie que fut Riquet, il faut ajouter l'homme qui a su organiser de façon remarquable la marche d'un chantier pharaonique pendant 14 ans. Son audace n'est pas seulement technique, mais c'est aussi le fait d'un organisateur hors pair qui a su allier efficacité et humanité, comme nous le verrons plus tard. Organiser un chantier pareil demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de rigueur. Le chantier a duré 14 ans. Riquet a dû, pendant tout ce temps, embaucher un très grand nombre d'ouvriers. Au maximum, il y a eu jusqu'à 12 000 ouvriers. Il a embauché des hommes, mais bien sûr aussi des femmes. Environ un tiers des emplois ont été occupés par des femmes. Et nous verrons lors de la prochaine émission l'organisation qu'il a fallu que Riquet mette en place pour venir à bout d'un tel exploit. Vous serez très étonnés par le fonctionnement, la rationalisation des moyens utilisés. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt dans Historia.